France Bleu Gascogne.
France Bleu Gascogne, l'écho des talents avec Didier Gouët.
Pour ça, et bonjour, très heureux de vous savoir à l'écoute de France Bleu Gascogne pour l'écho des Talenquers, votre magazine consacré à la course landaise. Dans quelques minutes, j'aurai l'honneur et le plaisir d'accueillir Bastien Lalanne qui, 8 mois après son grave accident survenu le 11 août dernier au concours de Dax, nous racontera son combat. L'écho des Talenquers à suivre tous les dimanches, 10h35-11h ou en réécoute sur francebleu.fr. Communiqué fédéral. Nous avons reçu ce jeudi la réponse des services de l'URSSAF concernant la demande que nous avions faite d'un changement de statut plus en adéquation avec la pratique de la course landaise. Notre demande a été acceptée sous réserve du respect des règles énoncées dans notre document de présentation qui est la charte fédérale. Un point de cette charte a cependant été modifié par les services de l'URSSAF et concerne le nombre d'acteurs par course pouvant bénéficier d'une prime de résultat. Notre proposition de 50% a été ramenée à un tiers afin d'écarter le risque de requalification en salariat. Les courses peuvent maintenant reprendre hors CEA. C'est une belle victoire pour notre course landaise. La Fédération française de la course landaise tient à remercier toutes les personnes qui ont participé à la réussite de ces démarches et s'engage à tout mettre en œuvre pour accompagner les clubs pour la mise en place de ce nouveau fonctionnement. Samedi prochain, 27 avril à 20h, aux arènes de Samadé, l'Union musicale samadétoise vous propose leur concert de printemps en hommage à l'ancien musicien et écarteur Jackie Lafitte qui nous a quittés il y a quelques jours. En cette période sans course landaise, ils vous y attendent très nombreux. L'association des acteurs de la course landaise vous propose une conférence sur les commotions dans le sport. Elle se déroulera le mardi 7 mai à 19h30 à la salle cinéma Aquitaine d'Achetemont. Participeront à cette conférence des médecins du sport, des acteurs de course landaise et des personnalités du sport. Une soirée tapas terminera la soirée. Réservation obligatoire avant le 21 avril auprès de l'association des acteurs de la course landaise, association.torero@gmail.com.
France Bleu Gascogne, l'écho des Talenquers, l'agenda.
La réponse de la reprise des courses landaises étant tombée ce jeudi en fin de semaine, pas de courses organisées ce week-end, mais cet après-midi, dimanche 21 avril, Monteau vous propose à 16h30 un concours de cocarde avec le bétail de la ganaderia des Risses. Et la première course, on l'espère, pourrait se dérouler ça dimanche prochain, 28 avril, à Sainte-Colombe avec la ganaderia des Risses. Alors attention, suite aux événements qui ont contrarié le début de saison, ne seront annoncés dans l'agenda uniquement les courses landaises qui m'auront été confirmées par les organisateurs. Merci de me faire parvenir les infos par mail à didier.goyt@radiofrance.com. Dans un instant, je serai accompagné de Bastien Lalanne, l'écarteur de Lorraine.
Vendredi 26 avril, frisson garanti. Vendredi 26 avril, le choc de Pro D2. Stade Montois Rugby, US Dax. Vendredi 26 avril, Total Rugby. 18h, 23h sur France Bleu Gascogne. On va vibrer. Avant match, XXL et retransmission 21h. Place à gagner sur France Bleu Gascogne, radio partenaire du Stade Montois Rugby, radio partenaire de l'US Dax.
France Bleu Gascogne, l'écho des Talenquers, l'invité.
Et j'ai le plaisir d'accueillir dans les studios de France Bleu Gascogne Bastien Lalanne, l'écarteur rugbyman de Lorraine. Salut Bastien.
Bonjour Didier, bonjour tout le monde.
Comment ça va aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je suis sur mes deux jambes, donc on va dire que ça peut aller.
Alors on va revenir bien sûr en arrière et notamment à l'occasion du concours de la Feria de Dax. Qu'est-ce qui s'est passé ce 11 août dernier face à Bohéma de la ganaderia armagnacaise ?
Eh bien ce 11 août, Bohéma était assez compliqué on va dire. Et elle fait tomber l'écarteur qui me précède, elle le fait tomber une ou deux fois, je ne me rappelle plus. Et moi, elle me fait chuter au premier écart, et là, je croise le regard de mon père, et il a vu que j'avais envie de tenter cet intérieur. À Dax, si on fait l'intérieur, autant faire un corps à terre pour gagner quelques points. Si ça passe, ben, je prends peut-être la tête du concours, si ça passe pas, ben, voilà. Malheureusement, c'est pas passé, et ce 11 août a changé ma vie complètement. Quoi.
Alors, quelle était la gravité de ta blessure, Bastien ?
J'avais une luxation de deux cervicales, C6, C7, qui me comprimaient totalement la moelle et qui m'empêchaient de bouger, tout simplement. Mon torse, mes membres inférieurs, normalement les bras, mais bon, je les bougeais un peu, la main droite que je ne bougeais plus. Mais voilà, j'avais une luxation C6 et C7 qui me paralysait.
Alors sur le choc, puisque tu es tombé sur les cervicales, tu as été KO ou tu as toujours été conscient ?
Je pense que j'ai eu une légère perte de connaissance de, je dirais même pas 15-20 secondes, parce que je me souviens d'avoir les gens au-dessus de moi en suivant. Donc non, et j'ai de suite dit que je pouvais pas bouger, donc j'ai pas été inconscient très longtemps.
Et à quel moment tu as pris conscience de la gravité de cette blessure ? Est-ce que c'était déjà par terre quand tu as su que tu pouvais pas bouger ?
Ah non, du tout. Quand j'étais par terre, pour moi, c'était
un coup.
C'était un coup. Ça allait revenir. Même à l'infirmerie, je voulais qu'ils me mettent debout. Enfin, je voulais qu'ils me mettent assis pour m'enlever le boléro plutôt que de le couper. Et non, bon, ils ont pas voulu. Ils m'ont coupé les habits, tout ça. Et arrivé à l'hôpital, mais moi, je disais non, mais ça va. J'arrivais à bouger un peu les épaules. Donc, je disais que ça allait à mes proches, tout ça. Et quand je voyais le docteur en face de moi, ce qui s'agitait un peu, il prenait le téléphone et à un moment donné, il est venu me voir, il m'a dit, là, monsieur Lalanne, il faut arrêter de faire n'importe quoi. Je sais même pas comment vous bougez les bras encore. Donc, là, il me dit, on va vous amener jusqu'à Bordeaux et vous allez vous faire opérer les cervicales, vous êtes tétraplégique.
Ah ouais, donc de suite, le médecin, le chirurgien t'a dit que t'allais être tétraplégique.
C'est le docteur de Dax qui m'a dit ça, que j'étais tétraplégique et qu'il savait pas encore comment je bougeais les bras.
Alors donc, de l'hôpital de Dax, tu es parti sur Bordeaux et tu as subi une première intervention chirurgicale. Ils t'ont fait quoi sur cette première intervention ?
Sur cette première intervention, mais ils m'ont passé des plaques par le devant du cou pour essayer de me...
Pour souder les vertèbres ?
Ouais, pour les libérer la moelle et souder ces deux vertèbres ensemble pour éviter qu'elles rebougent et que la moelle elle ait tout son passage complet dans mon corps, quoi.
Et là, quel a été le diagnostic du chirurgien une fois l'opération terminée, quand il est venu te revoir ?
Il est venu me voir pour me dire qu'il n'y avait rien qui se contractait, parce qu'il me faisait essayer de contracter les orteils, tout ça, mais rien bougeait. Là, il était pas trop, il disait pas encore grand chose le lendemain. Et c'est le surlendemain où il est revenu. Et là, il m'a dit, si ça aurait dû bouger, ça aurait déjà bougé.
Comment tu l'as encaissé, Bastien, cette parole difficile du chirurgien?
Ben, j'ai continué à y croire. Ça met un coup, oui. Et, ça met un sacré coup. Et je l'ai encaissé. Et j'attendais que ça, d'essayer que ça bouge. Et j'ai ce fameux SMS qui est arrivé entre ces deux opérations-là et qui m'a soutenu.
Alors justement, ce SMS a tout changé. Alors, qu'est-ce qu'il disait, ce SMS ?
Ah, ce SMS, il était simple. Il me disait qu'il fallait toujours continuer à...
C'était un sportif, hein ?
C'était un sportif, oui. Un sportif qui a eu un accident et qui était tétraplégique et qui a rebougé et qui a remarché. Qui me disait qu'il fallait jamais lâcher, qu'il fallait toujours... Penser positif, essayer de faire les gestes. Et ces gestes, ben, je les ai écoutés, je les ai fait refait, re-refait. Et ma foi...
24 heures sur 24.
Pas 24 heures sur 24, je faisais le matin, le matin, le soir. Après, j'étais occupé avec ma main, puisque je pouvais plus rien tenir dans mes mains. Donc, j'essayais de me rééduquer la main comme il fallait. Et essayer de faire ça matin et soir, ce qu'il m'avait dit. Et ça a peut-être marché. Ça a marché, mais... Bon, 2 mois après, mais ça a marché.
Et entre-temps, tu as quand même subi une deuxième intervention chirurgicale. Alors, et là, pour quelle raison, la deuxième ?
Ben le 17 août, ouais, ils m'ont réopéré, mais là, côté nuque, on va dire. Hein. Ils m'ont ouvert derrière le cou et ils m'ont fait ce qu'ils appellent une arthrodèse. J'avais donc C6, C7 de luxé et ils m'ont accroché de C5 à T1 ensemble, c'est la cervicale au-dessus et la vertèbre en dessous de la lésion. Et ils m'ont fait, on peut dire comme un échafaudage, quoi, j'appelle ça, voilà, pour essayer de tout sceller ensemble.
Alors, tu ne pouvais pas bouger les jambes encore, mais est-ce qu'il y avait des douleurs ? Est-ce que tu avais mal ?
Après la première opération, zéro douleur, vraiment, je sentais rien. La seconde opération, j'ai quand même eu beaucoup de mal parce que j'avais mal dans les muscles derrière, dans les trapèzes, tout ça. Parce que pour aller jusqu'au cou, ils ont dû écarter quelques muscles. Ouais. Donc oui, là, j'ai un peu souffert. J'ai même je voulais voir personne là, pendant un jour ou deux. J'ai accusé le cou. J'avais mal, donc. Mais après, c'est vite passé.
Mais toujours la volonté d'arriver au bout, hein ?
Ah, mais sinon, j'ai jamais baissé les bras, donc. Donc j'ai toujours essayé de garder le positif, même quand ma famille était là, parce que ça n'a pas été simple pour eux. Donc voilà, j'ai essayé de toujours garder le moral, pas toujours été agréable, peut-être forcément, mais j'ai toujours essayé de garder le cap vers le haut.
Et donc de Bordeaux, tu es parti en centre d'éducation à Cambo-les-Bains, qui est arrivé avec un seul objectif.
Je suis arrivé à Cambo-les-Bains le 15 septembre. Là, donc, ça a changé de décor déjà. Je voyais un peu, je me retrouvais un peu de paysage, un peu tout ça.
un peu d'extérieur,
même si tu avais le fauteuil, mais un peu d'extérieur. Et à partir de ce jour-là, j'ai dit que, il fallait, voilà, j'étais pas là pour rien et il fallait que j'essaye d'arriver au bout, quoi. Et parce que quand j'étais là, la première visite avec le kiné, c'était comme le chirurgien, hein, ça bougeait pas, quoi.
Et tu avais dit des mots forts à tes parents, hein, que tu ne reviendrais chez toi que le jour où tu pourras passer la porte debout.
Ah oui, moi je me voyais pas sortir de. J'ai la maison qui est pas adaptée pour le fauteuil roulant, donc malheureusement, voilà, je pouvais pas rentrer chez moi et puis j'en avais aucune envie. Et j'avais tellement, ça me faisait de la peine, oui, d'être comme ça déjà de un et de m'imaginer, je me voyais pas encore vivre. Comme ça, donc j'ai voulu me battre jusqu'au bout, et aujourd'hui ça a réussi, donc voilà.
Dans la tête, inconsciemment, tu avais peur aussi de gêner tes parents, parce que tu avais besoin d'eux ?
Ah ben, c'est une charge de travail supplémentaire pour tout le monde, hein, quand c'est, moi je tire un grand coup de chapeau à toutes les personnes, voilà, qui malheureusement s'en sortent pas, à tous leurs proches, parce que quand on sait ce que c'est, quand on a vécu, on sait ce que c'est, et on a pas envie de le. Franchement, je le souhaite à personne et c'est pas une vie. C'est une autre vie, on va dire. Mais c'est une grande charge de travail.
À quel moment tu as senti tes premières sensations et là, ça a été quoi ta réaction ?
Moi, mes sensations, hein, j'ai senti une orteil bouger sous la douche et je croyais que c'était.
Un
spasme. voilà, c'est des contractions involontaires, on va dire. Et sauf que, voilà, j'ai réessayé et. Et c'est là où la kiné m'a dit, en fait, non, tout se contracte. Donc, c'était des micro-contractures, mais ça voulait se contracter. Et de là, ça a évolué, et j'ai jamais rien lâché, et fait des expériences, que j'aurais peut-être pas dû tenter, mais qui m'ont aidé, et je me suis jamais retrouvé par terre, tout seul dans la chambre, donc c'est le principal.
Quand ça a commencé à bouger, t'en as parlé à tes parents, ou tu préférais attendre d'être sûr?
Je l'ai caché. J'ai tout, par rapport à tout ce que j'entendais, tous les gens qui parlaient à ma place, tous les gens qui racontaient des bêtises, hein, tout simplement, que j'entendais, qui me faisaient plus râler qu'autre chose. J'ai toujours gardé un temps d'avance par rapport à ce que je disais. Si j'étais debout, les premiers temps où j'étais debout et je remarchais avec l'ambulateur, je disais à mes proches tout ça, je suis en train de me lever un peu le déambulateur, mais rien.
Voilà.
Je gardais toujours un temps en avance parce que les gens racontaient tellement de choses fausses aussi que j'avais pas besoin de savoir où c'est que j'en étais, quoi.
Alors ceux qui te connaissent dans la vie, dans le sport, on est sûr que c'est ton caractère et ton moral qui ont été un atout majeur pour revenir à ce niveau.
Ah, c'est sûr que sans le caractère et sans le moral, celui qui a pas ça, je pense qu'il s'écroule, même s'il y a des gens qui peuvent aider ces personnes-là, mais si on l'a pas dans la tête, c'est compliqué. Donc.
Et tu avais donc un rendez-vous prévu avec le chirurgien. Comment il a réagi quand tu lui avais dit, la prochaine fois que je viens vous voir, je viendrai debout. Il y croyait pas trop. Et quand ça s'est fait, comment il a réagi?
Et comment il a réagi? Déjà, c'est pas le bon chirurgien que j'ai vu, malheureusement. Donc, c'est son collègue, mais son collègue, quand il a lu mon rapport, j'étais debout avec mes cannes anglaises, il s'est retourné, et il m'a dit, mais ça va mieux, monsieur? Ah oui, ça va mieux, oui. Et du coup, je lui ai demandé si on pouvait pas faire une photo pour son collègue. Il m'a dit, on va pas faire une photo, on va faire une vidéo. Et j'ai fait mes 4 premiers pas sans les cannes anglaises, avec un monsieur qui me sécurisait à côté parce que j'étais pas jamais, encore, c'était le premier pas que je faisais comme ça. J'ai fait ces 4 premiers pas en vidéo qu'il lui a envoyé. J'espère que le 11 août, j'aurai la réponse. Le 11 juin, j'aurai la réponse.
Alors, tu n'es plus à Cambo, dans ce centre de rééducation, mais je suppose que tu continues toujours à rééduquer.
Ouais, je continue la rééducation. On a pour Léon à Dax, à Saint-Paul, un hôpital de jour. J'y vais tous les matins. Là, je suis en repos, là, j'avais 3 semaines de coupure, mais je reprends vendredi prochain. Mais c'est vrai que le fait de continuer à bosser et tout me fait bien avancer et c'est pas maintenant que j'ai envie de lâcher, quoi.
Et ce qui est important, c'est que t'as besoin de personne pour t'y amener, puisque tu conduis également.
Je conduis, et le fait de pouvoir conduire, eh bien, j'avais droit au taxi médical, tout ça, mais le fait d'être libre et de pouvoir bouger, et j'ai passé 6 mois enfermé, donc là j'ai dit, je prends ma voiture et je me déroule tout seul, comme un grand.
Et aujourd'hui, tu en es où physiquement ?
Et physiquement, ça dépend des jours. Des fois, il y a la fatigue. Des fois, avec le froid, je boite plus que... Boite plus que d'autres jours. Ça dépend de la journée, ça dépend de mon état de fatigue, tout ça. Il y a beaucoup de d'éléments qui peuvent jouer.
Mais ton moral, il est toujours au beau fixe ?
Le moral est toujours au beau fixe, oui. Il change pas.
Alors là où le moral a dû être au top, c'est quand tu as pu retourner chez toi, donc pour les fêtes de fin d'année. Je suppose qu'il y a été un moment particulier.
J'ai longuement hésité, j'en avais parlé en premier à ma sœur, je n'avais pas raconté à tout le monde, parce que j'avais pas envie que ce soit la cohue chez moi. Si je rentrais, c'était pour profiter, être tranquille un peu, me reposer, voir ma famille. Donc voilà, je suis rentré pour Noël et pour le réveillon aussi. Et c'était très bien, les gens ont respecté, et franchement, j'ai passé de bons week-ends, oui.
Et puis ce qui est énorme, c'est que jusqu'à là, et même encore peut-être aujourd'hui, il n'y a pas, pratiquement pas un jour justement où que quelqu'un vienne te rendre visite. Même il a fallu presque que tu tiennes un calendrier de rendez-vous.
J'ai tenu un agenda pour pas avoir trop de monde, oui, parce que voilà, après ça fatigue. Mais ça m'a beaucoup aidé de voir tous ces gens. Et franchement, je les remercie énormément. Et comme je dis, oui, du 17 août ou du 19, je sais plus, jusqu'au 15 mars, et bien, sans arrêt, j'ai eu du monde et ça m'a permis de tenir le cap, je pense, oui.
Alors, tu as depuis aussi été voir jouer tes coéquipiers de l'US Mugron Rugby, puisque je rappelle aussi que tu étais pilier dans ce club de rugby. Tu as mis un temps aussi de réflexion avant d'aller les voir jouer?
Ben, je leur avais promis que je reviendrais. J'avais promis au coach que je passerais début d'année. Je l'ai fait pour le match à Saint-Palais le 14 janvier, pardon. Et ça m'avait mis, j'étais content de le faire. En plus, ils avaient gagné, on avait chanté dans les vestiaires, tout, c'était bien. Mais quand au retour de Cambo, j'avais pris un coup, j'ai dit, ça me faisait mal quand même pas jouer. Et dernièrement, le dernier match championnat, c'était le match de la qualification. Et les entraîneurs m'ont demandé de venir passer la journée avec eux. Je l'ai fait parce que je l'ai fait pour leur donner, essayer de leur donner une force supplémentaire.
Oui, parce que toi, ça te fait peut-être un peu mal, mais eux, ça leur fait du bien de savoir que t'es avec eux.
Quand ils voient tout, ils savent par où je suis passé, ils savent ce que j'ai vécu. Ils étaient là très souvent. Il y en a beaucoup qui sont venus me rendre visite, pratiquement tous. Donc ils savent par où je suis passé, ils savent ce que j'ai souffert. Ils savent ce que c'est avoir un moral d'acier, le mental.
Ils le savaient,
mais de leur, je pense que ça leur a fait du bien de voir que j'étais avec eux et que j'espère vraiment qu'ils vont se bouger le plus possible parce que j'aimerais être avec eux et puis voilà quoi.
Est-ce que aussi maintenant tu appréhendes d'aller voir une course hollandaise et notamment la Ganaderia d'Argelos?
Une course, j'irai revoir une course, tout ça. Peut-être pas les premières, je laissais passer un peu de temps, que tout le monde reprenne ses marques, tout ça. Mais j'irai faire quelques tours à quelques courses, discrètement, pour pas que, voilà, qu'on me pose 50 questions, et voilà.
Dernière question, est-ce que tu t'es mis un objectif aujourd'hui?
L'objectif, c'est récupérer au maximum, mais comme j'ai dit, le footing, le chirurgien m'avait dit footing le 11 août, j'espère vraiment y arriver, et si c'est pas au 11 août, ça sera au 14 juillet, j'en sais rien, mais mon but, c'est de refaire du footing, oui.
Bassir Lalanne, merci beaucoup. On te souhaite de récupérer bien sûr à 100%, même si aujourd'hui on est très 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 heureux de te voir remarcher et te retrouver parmi nous. Alors je te dis à très vite autour d'une arène, j'espère quand même.
À très vite Didier.
Et je tiens bien sûr aussi à saluer Michel et ta maman, Jean-Marc ton papa et Julie ta sœur, toute ta famille et tous ceux qui t'ont accompagné et qui t'accompagnent dans cette douloureuse épreuve parce qu'elle n'est pas terminée.
Elle n'est pas terminée, il reste quelques petits trucs à régler, mais ça devrait le faire.
Merci Bastien Lalanne, merci à vous les auditeurs. Je remercie Bruno qui m'a accompagné du côté de la technique. Je vous rappelle que l'Écho des Talenquaires est un podcast sur francebleu.fr et que vous pouvez la télécharger sans modération sur votre ordinateur ou votre téléphone portable à 10 chats. Et bon dimanche Coursaire.